Je ressens juste encore dans mon cœur que le Seigneur aimerait dire à quelques personnes, tout simplement parce que tu es venu dans ma maison, tout simplement parce que tu cherches mon cœur, tu vis quelque chose de difficile, tu vis quelque chose de, qui te fait mal, qui touche à ta vie, et tu es venu me chercher, dit le Seigneur, tu es venu dans ma maison pour chercher ma présence, pour chercher ma main ce matin. Ce matin, te dit le Seigneur, je t'accueille les bras ouverts. Je t'accueille les bras ouverts. Sens-toi accueilli dans les bras de ton Père. Dans les temps qui viennent, je vais te montrer l'amour du Père. Je vais prendre en charge ton problème et je vais toucher ta vie. Je vais toucher ta personne et je vais toucher ce nœud. Il y a un nœud qui est présent dans ta vie et c'est à cause de ça que tu es venu. C'est à cause de ça que tu es venu dans ce lieu ce matin. Il y a un nœud qui est présent dans ta vie. Et le Seigneur dit, je vais étendre ma main sur ce nœud. Je vais toucher ce nœud. Et petit à petit, ce nœud va se dénouer. Va se dénouer au nom de Jésus. Je vais juste encore prier. Père, je loue ton nom. Je loue ton nom parce que Tu accueilles tes enfants. Je loue ton nom parce que tes bras sont ouverts pour accueillir tes enfants. Seigneur, tu sais, il y a tellement de choses qui arrivent dans nos vies. Bien des choses sont des mauvais choix parce qu'on a fait des mauvais choix. Mais il y a des choses aussi, des accidents de la vie. Il y a des choses indépendantes de notre volonté. Seigneur, ce matin, j'aimerais t'apporter tout cela devant ton trône, parce que tu ouvres ton bras, parce que tu déverses ton amour, parce que tu nous ouvres ton cœur. Père, ce matin, j'aimerais te présenter ces personnes, que leur cœur se sente accueilli ce matin, que leur cœur soit touché par ta présence ce matin. Seigneur, merci parce que tu ne les as pas oubliés. Merci parce que tu étends ta main sur leur vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père, parce que personne n'est oublié dans ta maison. Merci Père, parce que personne, tu les connais tous par leur prénom, par leur nom. Merci Seigneur. Merci pour ton regard sur notre vie. Merci Jésus. Amen.
Amen. S'il y a des personnes qui se sont senties touchées, concernées par cette parole du Seigneur, et qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant, ou quelque chose que vous sentez que vous ne pouvez pas rester comme ça, je vous invite à l'issue du culte à vous adresser à Alain ou moi-même ou un membre de l'équipe pastorale pour ne pas rester seul avec cela. Et je nous invite tous maintenant à ouvrir notre cœur qui a été aussi préparé par cette louange, qui a été préparé aussi par cette parole qui est venue à la fin de la louange, et vraiment que nous puissions recevoir ce qui va être dit comme étant la parole du Seigneur. Vraiment que tu reçoives ce matin ce que le Seigneur a mis sur le cœur d'Alain et qui va nous transmettre, que tu reçoives comme étant quelque chose que Dieu veut te dire personnellement. Vraiment, dispose ton cœur dans ce sens. Seigneur, merci de bénir Alain, merci de l'accompagner dans cette dispensation de ta parole. Nous te louons, Seigneur Jésus. Amen.
Bonjour. Heureux de vous revoir, et heureux surtout, et c'est vrai, d'ouvrir cette parole de Dieu. C'est chaque fois avec reconnaissance qu'on peut plonger nos regards dans la loi parfaite. Ce matin, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur le message du 2 juin. C'est un petit peu la difficulté, n'est-ce pas, qu'on a en tant que pasteur ou quand on a un thème qu'on aimerait prendre sur plusieurs dimanches, c'est que vous n'êtes pas là tous les dimanches. On ne vous y oblige pas, mais c'est la réalité. Quand on commence un cours d'arithmétique dans une classe, on sait que les élèves seront là, à part la maladie, et puis vont suivre tout le cursus, en fait, pour arriver à l'objectif. Donc, je vais un petit peu répéter ce qui a été dit le 2 juin, avec, bien sûr, un regard encore plus précis sur ce qui va être vécu dans l'Église ces prochains temps, parce que ça touche la vie de l'Église, ça nous touche chacun individuellement. Et on va voir quelques diapositives. Alors, je vous lis quand même en préambule dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Et entre parenthèses, je vous rappelle que vous pouvez aller écouter les messages sur notre site web, si vous n'étiez pas là un dimanche, comme ça vous restez en lien en fait avec ce qui est dit. Donc dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, Paul dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Vous avez compris ? Vous êtes quoi ? Vous êtes ? Voilà. Je suis avant d'être l'édifice, avant d'être champ. Voilà. Ouvrier, je suis ouvrier avec Dieu, je suis le champ de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Et puis dans le prophète Ésaïe, nous lisons aussi ce passage qui nous rappelle ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et parfois j'ai l'impression que nous avons un petit peu de difficulté à prendre en compte ces réalités pour nous-mêmes. Souvent on évite peut-être, ou on ignore, ou on a de la peine à se dire « mais ce passage me concerne ». Et si ce passage me concerne, il va me donner une direction à suivre. Et dans Ésaïe au chapitre 61, verset 3, Dieu rappelle que nous sommes des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est un lien avec cette parole qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 3, 9, où nous sommes un champ de Dieu, ou une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors j'avais rappelé dans un premier temps que nous avons affaire à un Dieu généreux. Est-ce que vous voyez ? La belle image, pas tellement. Hein ? Dieu a démontré sa générosité dès le départ. Elle fait partie de sa nature. Nous le voyons dans la création. Lorsque Dieu crée, il donne un ordre. Il dit de multiplier. Effectivement, la création va se multiplier. On le voit dans la race humaine. Dieu bénit la race humaine et lui dit aussi de multiplier. Et la race humaine multiplie. On le voit avec Israël. Alors, je prends juste des petits exemples. Hein, j'en avais rappelé d'autres. On le voit avec Israël. Quand Dieu choisit Israël, il l'emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. On le voit dans la vie de Jésus. Tout au long de sa vie, Jésus a manifesté les principes du royaume de Dieu, les signes du royaume de Dieu. Sa vie n'était qu'un reflet du royaume de Dieu. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est extraordinaire quand même. Et puis, il y a nous. Et parfois, j'ai l'impression, encore une fois, que nous avons tendance à passer à côté de paroles de Dieu qui vont en fait former notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Quand on pense tout l'investissement qu'on fait pour que nos enfants deviennent adultes, le nombre de paroles que nous leur transmettons, depuis même quand ils ne comprennent rien, enfin peut-être qu'ils comprennent, mais on sait pas, quand ils sont tout petits bébés, on leur dit plein de choses. Dans la perspective de voir nos enfants grandir et devenir des hommes faits. Donc quand Dieu te regarde, quand Dieu te regarde, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il aimerait pouvoir entrer dans la réalité de ta vie pour créer en toi les réalités du royaume de Dieu, les attributs de Jésus, enfin tout ce qui concerne cet homme nouveau, cet homme spirituel qu'il t'appelle à être. Dieu a décidé de mettre dans nos vies bios, vous vous regardez, vous avez un corps, voilà, une capacité intellectuelle, vous réfléchissez et tout, mais ça ne suffit pas, et on l'a tous vu à un moment donné, quand on ressentait un certain vide dans notre existence, n'est-ce pas ? Cette vie bios ne suffit pas, même si on peut faire 30 fois le tour du monde, voir les endroits les plus magnifiques sur cette terre, découvrir l'immensément grand et le petit, on soupire après quelque chose de plus. Et Dieu est prêt à investir dans nos vies la vie Zoé, la vie qui vient de Dieu, qui nous donne d'être des êtres tout entiers, corps, âme, esprit, et qui vont être capables ainsi de comprendre la volonté de Dieu. Alors, on a décidé en conseil et avec l'équipe pastorale, avec le groupe de louanges, on s'est revu, on passe à la deuxième dia. On va lancer ce qu'on va appeler l'opération Galilée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui avait été dit à ce sujet, il y a quelque temps en arrière, donc le 2 juin. L'objectif de ces messages qui vont venir ces prochains temps, c'est de nous amener justement à faire de chacune de nos vies une offrande à Dieu, qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire au travers de chacune de nos vies. Encore une fois, le passage que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3 stipule clairement que ce n'est pas une petite élite qui est appelée à servir à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une petite élite qui est appelée à conduire le peuple de Dieu, mais on voit que Dieu veut utiliser chacune et chacun pour l'avancement de son règne, pour la manifestation de ce royaume de Dieu sous des formes diverses, par des dons divers. Et je crois que cette opération Galilée doit nous amener en Église à vivre. Alors on va y aller gentiment, on va enseigner tout ça, on va nous préparer. Parce que si on gravit, je ne sais pas, l'Aiguère ou bien l'Himalaya, c'est des heures d'entraînement, on se prépare psychologiquement, on se prépare matériellement, on se prépare physiquement. Et je crois que l'Église a besoin aussi de se préparer à vivre, de temps à autre en tout cas, des cultes où nous allons ensemble saisir la pensée de Dieu, vivre la présence de Dieu, vivre les dons spirituels. Vous avez remarqué dans le message du 2 juin qu'il était question de deux régions où Jésus a manifesté son ministère. Vous vous rappelez, la Galilée et Jérusalem. Bien sûr, il est allé dans d'autres endroits, mais l'essentiel de son ministère s'est vécu dans ces deux régions particulières. Et on a remarqué que c'était deux terres aussi, deux champs très différents. On voyait qu'à Jérusalem, c'était une terre aride. C'était une terre difficile, corrompue spirituellement, religieuse, et Jésus a eu beaucoup de peine à manifester en fait son ministère. Il a été rejeté et il a fini sur une croix à Jérusalem. Alors qu'en Galilée, on voit que Jésus accomplit beaucoup de miracles, l'essentiel de son enseignement a été donné en Galilée, et je pense que symboliquement, nous pouvons reprendre cette réalité pour nos propres vies, c'est-à-dire nous poser la question: où est-ce que j'en suis? Dans quel état se trouve ma terre? À quoi ressemble la terre de ma vie? Est-ce que c'est une terre arable et riche qui reçoit les choses de Dieu? Et si elle les reçoit, elle produit quelque chose? Parce qu'une terre arable, une terre franche, elle est là pour recevoir, mais ensuite pour donner. Ou alors la terre de Jérusalem, qui est une terre aride, et je pense qu'il y a là un symbole de la religiosité. C'est très facile de tomber individuellement ou au sein d'une église dans un esprit religieux ou dans une tradition humaine. Ça nous guette tous. On doit se faire souvent violence pour ne pas se laisser aller au minimum vital. Si on veut marcher dans le domaine spirituel, si on veut grandir, on doit se faire violence. Moi, j'ai connu personne qui n'a pas eu de combat ou de lutte pour grandir spirituellement, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans un terrain neutre. La vie spirituelle est un combat. La parole de Dieu nous dit que nous avons à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des esprits méchants, dans les lieux célestes, mais aussi sur cette terre. Donc on voit que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose, voilà, dans lequel on entre une fois pour toutes, et puis c'est le long fleuve tranquille qui nous amènera un jour dans l'éternité. C'est un combat de tous les jours, et je suis sûr que vous avez ce genre de combat. Quand vous voulez ouvrir la parole de Dieu, quand vous voulez prendre un instant pour prier, quand vous voulez prendre un instant en famille avec les enfants, mais c'est un monde, hein. Voilà. Donc on voit que une église ou moi-même peut entrer dans une attitude religieuse. On s'habitue à vivre quelque chose qui est plus de l'homme que de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 13, lorsqu'il est confronté aux pharisiens, aux sadducéens, voilà ce qu'il leur dira.
Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Enfin, Jésus reprend les hommes religieux pour leur dire que, en fait, au travers de leur tradition, ils annulent la parole de Dieu. Donc, sans s'en rendre compte, je peux, l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds, ou n'importe quelle autre église ici, peut entrer dans une tradition qui annule, alors pas toutes les paroles de Dieu, on se comprend bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes, qui sont vraies, mais le but de ces choses justes et vraies, c'est de les vivre, n'est-ce pas ? C'est de les vivre individuellement, mais c'est aussi de les vivre en église. Donc, annuler la parole de Dieu est quelque chose de grave. Et en Marc 6, 7, cette fois j'espère que ça sera bon. En Marc 6, 7, il est dit que Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus est parti pour dire des choses dans les villages. Il est parti pour semer une parole dans des terrains, dans des champs qui étaient censés recevoir cette semence. Et quand une semence tombe en terre, c'est ce que la terre nous rappelle et nous enseigne, elle porte du fruit. Si les conditions sont bonnes, elle va porter du fruit. Donc, loin de moi de dire que nous sommes entrés dans une tradition d'homme le dimanche matin, ou que nous annulons la parole de Dieu, mais le danger existe. Et c'est pourquoi nous aimerions, en tant qu'Église, vivre, être un terrain, un champ dans lequel Dieu peut se manifester. Et j'aimerais que cette Église ressemble à la Galilée, c'est-à-dire où Jésus allait de lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Acte 10, 38. Jésus veut aller de lieu en lieu. Il y a des choses dont nous devons être délivrés, dont nous devons être guéris. Il y a des choses qui doivent maintenant être émondées de notre vie. Et c'est le but de l'Église. Si l'Église n'est qu'un lieu où on vient s'asseoir pour s'assurer du salut, je crois qu'on manque quand même l'essentiel. Amen. Ça va? Je vous choque? Non, certainement pas. Alors, pour ce faire, prochain dia, il y a des conditions. Alors, c'est déjà une question que nous pouvons nous poser ce matin. À quoi ressemble le champ de ta vie, le terrain de ta vie? Alors, la nature du terrain est essentielle. C'est une évidence même, c'est une évidence que la création nous montre, la nature nous montre. Si votre terrain n'est pas favorable, il ne portera pas les fruits escomptés, ou alors des fruits sauvages, ou des fruits miclés, comme on dit. Si la nature du terrain est bonne, elle va produire. Prochain dia. Très intéressant de voir ce qui se passe dans la nature. Et souvent, on peut tirer un parallèle avec ce qui devrait se passer dans nos vies. Pour avoir un terrain favorable, une terre franche, on a réalisé qu'il y avait 4 domaines importants qui devaient figurer dans cette terre. 60% de sable, 30% d'argile, 5% de calcaire et 5% d'humus. Ça, c'est l'idéal. Si on en arrive là, c'est parfait. Si on en arrive là, le terrain est favorable pour non seulement recevoir la semence, mais pour porter du fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde l'histoire de l'Église primitive, cette Église a vécu des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Toutes les églises du monde entier reviennent continuellement à Acte 2, Acte 3, enfin tout le livre des Actes, pour essayer de se mettre en phase avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Et nous découvrons que Dieu n'a pas demandé des choses impossibles aux chrétiens de l'Église primitive. Il leur a demandé d'être un champ de Dieu. Il leur a demandé d'être une terre favorable qui accueillerait ce que lui voulait faire sur cette terre et dans ce champ. Et on constate, prochain dia, qu'il y a aussi 4 terrains qui font que le terrain de l'Église peut être favorable ou non. Que l'Église peut être une Galilée ou l'Église une Jérusalem. Une Église religieuse ou une Église qui accueille la présence de Jésus, qui accueille la parole de Jésus, qui laisse cette parole se concrétiser, prendre forme, se matérialiser. Et on voit que ses disciples, dans Actes 2, 42, persévéraient dans 4 domaines qui sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Moi, je trouve rien d'extraordinaire à cela, n'est-ce pas? Donc, cette Église a obéi. Prochain dia.
En vivant l'ordinaire, ils ont persévéré et ils étaient assidus. C'est deux mots qui reviennent au début de la vie de cette église primitive. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très important que nous devons prendre en compte individuellement pour pouvoir le vivre en église. Ça veut dire que si je suis persévérant, c'est-à-dire si je persiste, si je demeure ferme, si je suis constant dans une décision ou une action, si je suis assidu, c'est-à-dire qui est continuellement auprès de quelqu'un ou régulièrement présent à l'endroit où il doit être, qui manifeste de la constance, c'est une bonne disposition qui permet ensuite à Dieu d'accomplir l'extraordinaire. Mais vous voyez combien nous avons de peine à être persévérants et assidus. Peut-être pas personnellement. Peut-être que tous les jours, tu as tes moments avec le Seigneur, tu lis la parole de Dieu, tu partages ta foi, etc., etc. Là n'est peut-être pas le problème. Mais il y a une autre réalité, c'est l'Église. Jésus a donné vie à l'Église. Et l'Église n'est pas une espèce de corps éthéré entre ciel et terre. C'est une réalité bien terrestre. Et je fais partie d'une Église, c'est-à-dire d'un petit bout du corps de Christ. Et si je ne prends pas au sérieux, et si je ne suis pas assidu, automatiquement, le terrain ne sera pas favorable. Et là, je crois que nous avons quelque chose à redécouvrir. Je ne veux pas être trop, sévère avec nous, avec vous ce matin, mais je pense que nous devons retrouver cette persévérance des premiers chrétiens dans des choses qui paraissent ordinaires, mais qui sont les conditions que Dieu nous donne. Encore une fois, il ne nous demande pas des choses impossibles. Prendre le temps en église de prier, prendre le temps en église d'approfondir la communion fraternelle, prendre le temps de se former. Nous allons commencer un cours de formation sur les bases quand même de la vie chrétienne, mais un cours quand même sérieux et solide. Il y a là un principe de base. Si je me contente d'être sauvé, alors je vais à l'église parce que je suis sauvé, ben je serai sauvé, voilà, comme au travers du feu, comme le dit l'Écriture. Mais la parole de Dieu me dit que je suis appelé à ajouter à ma foi la connaissance. Et il y a tout un principe de Dieu qui se met en action à partir du moment où j'obéis. Si je n'obéis pas, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas possible. Lorsque je ne fais pas d'effort ou je ne me violente pas en quelque sorte pour ajouter à ma foi la connaissance, ben je vais rester dans l'ignorance. Si je reste dans l'ignorance, Dieu aura beaucoup de peine à m'utiliser pour manifester des dons spirituels. Le don de connaissance, parole de sagesse, parole prophétique, tout cela trouve son terreau dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc je ne perds pas mon temps lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je la médite, lorsque je vais approfondir cette connaissance. Elle va pouvoir être utilisée parce que mon terrain est plein de cette connaissance. Ça, c'est ma part, c'est l'ordinaire. Et le Saint-Esprit va faire l'extraordinaire. C'est-à-dire qu'un dimanche matin, tu viens à l'église et tout d'un coup, le Saint-Esprit va t'utiliser en prenant une parole qui est déjà en toi, dans ton trésor, dans ton bon trésor. Et il va te dire, partage cette parole maintenant. Et toi, tu es là en train de trembler, ton cœur commence de battre la chamade parce que tu n'as jamais fait ça. Et il y a une personne dans cette église qui n'attend que ça. Cette parole que Dieu veut transmettre au travers de toi. Et c'est comme ça que l'église s'édifie. C'est comme ça que nous nous édifions les uns les autres. Par contre, si on s'attend à ce que le pasteur, les anciens, l'équipe pastorale fassent tout, l'Église passe à côté de son appel. Dimanche prochain, Dieu peut t'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu dans la vie de l'Église, dans la vie d'un frère ou d'une sœur, dans la vie d'une famille. Et c'est ça qui doit vraiment nous motiver. Donc, nous devons prendre garde et savoir où en est notre terrain. Est-ce que notre champ se remplit de cette connaissance de Dieu, de cette présence de Dieu qui, à un moment donné, va pouvoir être divinement utilisée. L'extraordinaire, c'est Jésus qui l'accomplit. On n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. On n'a pas besoin de faire semblant ou d'imaginer des choses improbables. Quand nous faisons ce qui est juste, quand nous accomplissons l'ordinaire, Jésus est prêt à faire l'extraordinaire. Jésus est prêt à se manifester. Il est dit dans Marc au chapitre 16, verset 20, « Quand ces hommes et ces femmes ont accepté de vivre l'ordinaire, il est dit, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Voilà l'Église. Pour moi, c'est ça l'Église. Ce n'est pas un ensemble de personnes qui viennent dimanche après dimanche s'asseoir sur une chaise pour écouter un bon message. Or, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que c'est par la foi qu'on reçoit le salut, etc. Mais j'aimerais que l'Église puisse comprendre qu'il y a plus. Et que tu es une partie de ce plus. Si tu viens le dimanche matin en t'étant préparé, en étant disposé, en étant une terre franche, en étant une terre travaillée par le Seigneur, alors à coup sûr, il se passera des choses extraordinaires, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Amen. Ça demande encore un petit peu de maturation, hein. Vous savez qu'il y a un kit d'analyse qui existe pour les terres. Alors on peut passer à la prochaine, parce que ça c'est l'extraordinaire. Pour ceux qui ont un jardin, vous avez certainement été un jour dans une grande surface ou chez un jardinier, et vous avez acheté, n'est-ce pas, un kit d'analyse. Et puis vous plantez dans votre terre un petit appareil ou un petit papier, je ne sais plus exactement comment ça se passe, pour connaître par exemple l'acidité de votre terre. C'est une information précieuse. Et moi, je pense que à partir de ce matin, on peut vraiment demander au Seigneur de venir analyser la terre de nos cœurs, le champ que nous sommes. Si nous voulons être un bon ouvrier, nous devons d'abord être un bon champ. Et ce champ doit être travaillé par le Seigneur. Et dans le psaume 139, verset 1, il est dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. » Mais est-ce que je le crois vraiment, ça? Ça fait un peu peur, hein? On se dit, « Oulala, l'œil de l'Éternel est sur moi, là, boum, il me suit partout. Hein? » Mais c'est un regard tellement bon, un regard tellement plein de grâce et de bonté. Dieu ne nous regarde pas pour nous voir faire des bêtises. Dieu nous regarde parce que nous avons du prix à ses yeux. Et il voit ce qu'il pourrait faire au travers de nos vies. Et il voit tout ce qu'il pourrait mettre dans nos vies, du royaume de Dieu. Alors, le psalmiste dit, mais sonde-moi, ô Dieu. Ça, c'est le kit d'analyse. Hein? Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Vous rappelez Jésus qui avait pris cette parabole des quatre terrains. Hein? Alors, sur les quatre terrains, il n'y avait qu'une partie qui était vraiment réceptive. Hein? Donc, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Je crois que si, en tant qu'individu, je suis prêt à vivre cette réalité-là, à me laisser sonder et à laisser le Seigneur me dire où en est ou quelle est la qualité de la terre de ma vie, eh bien, je pourrai aller de l'avant, je pourrai vivre des choses nouvelles, je pourrai progresser dans ma vie chrétienne. Je pourrais devenir moi aussi, toi aussi, un maillon en fait de cette longue chaîne de chrétiens, de croyants, mais aussi de collaborateurs avec Dieu. Parce que Dieu veut... La pile est à plat, j'arrête mon message. Et j'aimerais vous inviter à prendre un temps de prière. La dernière dia, faire alliance avec Dieu. Il y a quelque chose de très fort dans cet aspect-là, de l'alliance. Et j'aimerais m'arrêter dimanche prochain là-dessus, dans l'Ancien et même le Nouveau Testament, où il y a une alliance entre des hommes. Et je crois que c'est une réalité à laquelle nous sommes appelés.